En ce début d'année 2016, la période des vœux bat son plein. On se projette sur cette nouvelle année qui commence en espérant et en souhaitant même qu'elle soit meilleure que la précédente. Et justement, que retenir de l'actualité riche et dramatique de 2015 ? C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Lionel Pierrot pour le Forum des Jeunes. Alors pour évoquer l'actualité de 2015, j'ai invité autour de la table trois jeunes qui vont se présenter, donc dans l'ordre d'apparition à l'écran.
Bonjour, je m'appelle Louis. Alors je suis lycéen en classe de seconde et j'aime tout ce qui s'approche de près ou de loin à l'actualité, à la politique. Je fais du scoutisme et j'aime beaucoup la musique aussi.
Bien, à côté de Louis...
Bonjour, moi c'est Foucault, je suis à Saint-Dominique en première ES, j'aime comme mon compagnon à ma droite, oui. La politique, je suis aussi scout, puis je suis énormément l'actualité, notamment celle qui s'est passée en 2015.
Bien, et enfin
Bonjour, je m'appelle Théophile, je suis en classe de seconde au lycée Loritz, je m'intéresse beaucoup à la politique et à l'actualité. Et je suis en classe de seconde à Loritz.
Très bien. Alors justement, pour parler d'actualité, si je vous ai fait venir, c'est parce que vous aviez un intérêt particulier sur l'actualité. Quelles sont vos sources d'actualité ? Enfin, quelles sont vos sources, pardon, pour suivre l'actualité ? Louis ?
Essentiellement de la presse en ligne, donc Le Nouvel Observateur et Mediapart.
Mm-hmm. Donc, lorsque tu es à la maison ou sur ton portable, quand tu as du temps de libre ?
Oui, quand j'en ai le temps et quand j'ai Internet.
Mm-hmm.
Et puis sinon, voilà, la petite tradition, c'est le petit journal tous les soirs avec la famille.
Très bien. Sur quelle chaîne ?
Sur Canal+.
Ah oui, le petit journal, pardon, j'ai cru que c'était le 20h. Ton voisin, Foucault ?
Alors moi, je suis essentiellement l'actualité avec les applications mobiles, donc Le Monde, Le Figaro, Le Point, énormément d'actualités sur les journaux. Et puis je regarde aussi Le Grand Journal, le petit journal, La Nouvelle Édition, qui sont surtout des débats sur l'actualité.
D'accord. Et les applications sur ton portable, tu n'as pas l'impression que tu as une information parcellaire ou très condensée, peut-être trop condensée ?
Non, parce qu'en fait, quand on reçoit la notification, c'est une phrase bien décrite. Et en fonction de ce qu'on a envie de regarder, on peut cliquer dessus. On a directement l'article qui a été écrit par les journalistes. Donc, c'est très intéressant. On choisit nous-mêmes ce qu'on veut voir. On n'est pas directement...
À toi de sélectionner. Et Théophile, quelles sont tes sources
de... Alors, moi, c'est de la presse écrite indépendante. Mm-hmm. Aussi sur Internet. Pas mal de sites comme Libération, Le Monde...
Et tu lis les articles tous les jours ou une fois dans la semaine ?
Ouais, j'irai deux fois par semaine à peu
Bien.
Près.
En trouvant le temps par rapport à tes activités scolaires et extrascolaires.
C'est ça.
Alors pour commencer ce débriefing de l'actualité de 2015, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2015 ? Louis ?
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est la montée de la haine. La montée de la haine de toutes les façons possibles, par le terrorisme, par des actes impardonnables qui ne sont malheureusement pas que provenant des djihadistes.
Mm-hmm.
La montée de la haine comme seul argument au problème du monde et la haine toujours la haine, et c'est ça qui m'a assez choqué en cette année 2015.
Oui, Foucault.
Moi, c'est pas forcément les attentats parce que je trouve qu'on en parle trop, qu'on rabâche un peu trop les attentats, même si c'est quelque chose qui est assez important. Moi, je pense plutôt aux migrants qui arrivent en masse en ce moment. Je pense qu'on, même si on a l'impression d'en parler beaucoup, on n'en parle pas assez.
Oui.
C'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant, l'arrivée des migrants. Ils sont quand même énormément beaucoup, donc je pense que ça a parlé de
bien.
Plus.
Et l'Europe qui est divisée sur justement l'accueil des migrants, par exemple la Commission européenne qui souhaiterait imposer des quotas pour que chaque pays accueille une certaine part de ses émigrés. Quel est ton avis ?
C'est difficile d'accueillir des migrants aujourd'hui en Europe, de par certaines personnes qui sont xénophobes ou qui n'aiment pas forcément les étrangers. C'est les États qui doivent prendre des décisions. Et c'est ça qui est assez dur en ce moment, notamment avec l'Allemagne, qui a une quantité impressionnante, ouais, beaucoup plus démesurée que celle que ce qu'on a en France, et qui se met en avant, qui dit « nous, on accueille des migrants ». L'Italie aussi a énormément de migrants et n'en fait pas une médiatisation autant qu'on en voit en Allemagne.
Et Théophile, pour toi, les migrants, c'est une chance parce que des migrants qui arrivent dans un pays, c'est du travail, des consommateurs, ou au contraire, c'est la peur de l'inconnu, de l'autre?
Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est... Je sais pas si on peut appeler ça une chance qu'ils soient obligés de partir loin de chez eux pour venir se réfugier en France pour la guerre. Mais je pense que c'est bien, enfin, c'est même super qu'on puisse les accueillir et qu'on puisse en accueillir un peu plus en attendant que là-bas, la situation se rétablisse. C'est dommage que, des gens viennent, soient obligés de quitter certaines leur famille, leur travail, enfin, tout ce qu'ils avaient là-bas pour venir se réfugier en France et être souvent très mal accueillis.
Mmh. Avec des conditions de voyage entre les pays qu'ils quittent, hein, la Syrie par exemple, l'Afghanistan ou des pays africains, donc des conditions de voyage extrêmement périlleuses.
Oui, par exemple, dans les canots, quand par exemple un canot coule, ça pardonne pas, il y a beaucoup de morts, ou même quand on voit en ce moment à Calais ceux qui veulent rejoindre l'Angleterre, qui sont prêts à tout pour passer, même à mettre leur vie en jeu, c'est quand même qu'il doit se passer quelque chose de très grave là-bas.
Mmh. Vous en parlez souvent entre vous, pendant les récréations par exemple. C'est un sujet d'échange entre vous?
Pas tellement, non.
De façon générale, l'actualité, c'est pas forcément un sujet d'échange. Louis?
Après, personnellement, entre moi et Théophile, vu qu'on est dans la même classe, on a toujours des débats assez intéressants, assez variés sur l'actualité, mais c'est vrai qu'en dehors d'un groupe assez réduit de personnes, il n'y a finalement pas beaucoup de personnes qui s'intéressent de façon assez importante à l'actualité et qui mène un débat, une réflexion de fond sur pourquoi, sur comment et sur comment résoudre surtout.
C'est peut-être parce qu'il est difficile de prendre position, par exemple quand on compare le nombre des migrants arrivés entre l'Allemagne, plus d'un million de personnes, en France où les chiffres sont très très bas au niveau de l'accueil. C'est peut-être difficile pour vous de prendre position, d'avoir un avis.
Ce qui est surtout difficile en fait, c'est de prendre position seul. Parce que quand on prend position seul, on a souvent tendance à oublier des détails, oublier des données. Ce qui fait que la réflexion de groupe, en fait, c'est quelque chose... plus il y aura du monde sur la réflexion, autour de cette réflexion, et plus ça sera facile pour tout le monde, je pense. Et plus ça sera intéressant.
Et peut-être que je peux poser la question à Foucault. Vous n'avez peut-être pas la possibilité, justement, de mener une réflexion de groupe. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les conditions pour pouvoir... échanger, dialoguer, échanger des arguments qui peuvent être contradictoires?
Le problème aujourd'hui, et on le voit dans les classes, quand on essaie de faire des débats, de tenir des arguments face à des questions comme ça, c'est que chacun a son avis partagé et que ça va vite partir. Chacun va s'envoyer des mauvais propos à la tête. Du coup, il n'y a pas de... Il y a un gros problème de... On n'a pas d'apprentissage dans la matière pour pouvoir gérer ces arguments. Et souvent, on répète les arguments qui sont dits dans les médias. On n'apprend pas nous-mêmes à avoir des arguments à nous.
Donc l'apprentissage de l'écoute, de la tolérance d'un avis différent, et puis de l'argumentation pour contrer un argument ou présenter un argument contraire.
Je pense que c'est surtout aussi quand on a des sujets comme ça, comme les attentats, les migrants, les personnes sont en panique et perdent leurs moyens quand elles doivent exposer, parce que le débat, le fait de dire ce qu'on ressent, ça passe par les émotions, donc on dit ce qu'on a vraiment sur le cœur, et du coup ça crée des tensions, et je pense que il faut apprendre à maîtriser ces émotions par le débat. C'est beaucoup plus facile, on apprend à écouter l'autre.
Théophile, par rapport aux attentats, est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu te sens à Nancy en danger? Autre question, est-ce que tu as modifié quelque chose dans ta façon de te déplacer, de vivre?
Non, moi j'ai rien modifié du tout. Je pense qu'il faut justement pas avoir peur, que avec toutes les manifestations qui se passent en France, il y a très peu de chances que ça puisse nous arriver. Mmh. Au final, faut pas non plus être un peu parano, je vais dire. Mmh. Et que je trouve ça dommage que les gens se referment un peu sur eux-mêmes et écoutent un peu trop ce que les médias disent. Parce que c'est... Comme par exemple, ils avaient parlé, beaucoup de gens disaient « faut rester chez soi », etc. Moi, je pense que c'est pas la solution. Je pense qu'il faut sortir, montrer que Par exemple, c'était Noël, je sais pas, sortir dans la rue, aller voir des marchés de Noël, etc. Ouais. Pour qu'il y ait un peu de convivialité, des choses comme ça qui se passent, et pas rester seul dans sa maison, regarder les infos et avoir peur.
Très bien. On va faire une pause. Justement, Théophile, c'est toi qui as choisi le titre qu'on va entendre. Tu peux le présenter.
C'est un morceau d'un groupe français des années 75 à peu près,
oui.
Des Beurrés Noirs. C'est un morceau qu'ils ont sorti qui ont écrit pour les attentats de Charlie Hebdo et qui l'ont rendu public aux derniers attentats à Paris. Et c'est un morceau contre la montée du fascisme religieux, intégriste,
oui.
Politique.
Et le morceau s'appelle
« Mourir à Paris ».
Vous écoutez Fadjet, le forum des jeunes. Le thème de l'émission, c'est retour sur l'actualité de l'année 2015. Et j'ai invité autour de la table Louis, Théophile et Foucault pour entendre leur avis sur ces événements de 2015. 2015, c'était une année d'élections avec les élections départementales au printemps et les élections régionales en automne. Qu'est-ce que vous pensez du déroulement de ces élections et surtout des résultats ?
Ça a été un gros choc. Surtout les élections des prochaines régions, des nouvelles régions,
oui.
Notamment avec la montée du Front National. Moi, je pense que les partis ont très très bien réagi. Parce que le Front National, les gens ont voté Front National parce qu'ils étaient angoissés.
Donc vous pensez que c'est plutôt un rejet de la politique actuelle ?
Oui, c'est un rejet de la politique actuelle.
Plutôt qu'une adhésion au programme du Front National.
C'est un rejet de la politique actuelle. Les gens ont voté pour le Front National parce qu'ils étaient perdus et que le Front National, c'est... C'est une force, il faut le dire, hein. Aujourd'hui c'est une force, ils n'ont pas peur. Après, que le Parti Socialiste ait dit « nous on retire toutes nos voix » justement pour donner les Républicains, de la chance aux Républicains, ça a été une belle preuve d'amitié entre deux partis.
Mmh.
Et Ça a été très beau, je pense, comme geste.
Ouais, Louis ne semble pas d'accord.
J'aimerais quand même un peu nuancer, étant donné que Sarkozy a dit ce soir des élections qu'il refusait toute alliance avec le Parti Socialiste dans les listes où ils étaient troisième.
Ouais.
Donc en fait, c'est un peu à sens unique, j'ai l'impression. Mais je fais pas non plus la part belle au PS, étant donné qu'ils sont aussi responsables de cette situation. Mais d'un autre côté, à côté de la montée du FN, qui montre la crise de représentation des Français, il y a quand même eu l'émergence de nouvelles listes, notamment je pense en Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, avec la liste Faisons citoyen de Joseph Buisson. L'émergence comme ça d'une autre façon de faire de la politique qui même si on vote pas pour eux prouve que il faut quand même un peu changer notre façon de voir la politique.
Alors,
aujourd'hui.
Justement, une nouvelle façon de faire de la politique, comme le disait Foucault, les gens ont un rejet de la politique actuelle, une angoisse par rapport à la situation actuelle, le chômage, les chiffres du chômage qui restent très élevés, hein. On a dans la catégorie A, pardon, plus de 3 500 000 chômeurs sans aucune activité. Ça participe aussi au rejet de la politique actuelle. Théophile, est-ce que tu penses que le pacte républicain ou les politiques de gauche et de droite souhaitent travailler ensemble pour combattre ce fléau ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ?
Alors moi, je pense pas du tout, en fait, parce que dans ce qu'ils ont appelé à faire, c'est un vote citoyen contre la montée du Front National. Et dans la logique des choses, un vote, c'est on vote pour ses idées et non contre des idées.
Mmh.
Je pense qu'il faut plus que les gens votent selon leurs convictions. Parce que on a, par exemple, je reprends l'exemple du Front National, qui, un de leurs slogans, c'était la gauche vous a menti, la droite aussi, votez Front National. Je pense que c'est pour eux un vote des électeurs de rejet de la société, comme on en parlait, et que aussi le Front National a récupéré beaucoup d'arguments se mariant bien avec les prolétariats.
Mmh.
Par exemple, le chômage va le taux de chômage va descendre,
ouais.
Etc. Et je pense que du coup, les gens, comme ils étaient un peu perdus, ils ont beaucoup voté Front National.
Ouais. Mais alors, ce pacte républicain, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je sais pas, je m'adresse à Foucault.
Ce pacte républicain, franchement, c'est une bonne idée. Mais il faut le dire, hein, le chômage, c'est pas le combat d'un seul parti.
Oui.
Le chômage, il peut pas être éradiqué pas avec un seul parti. C'est un combat de plusieurs partis menés bout à bout avec des réflexions, que les convictions soient différentes, ça c'est pas grave. L'important, c'est qu'on en vienne à bout et que ça se finisse au fur et à mesure. C'est important aujourd'hui que on ait une cohabitation entre les partis pour une cause qui est quand même récurrente. Et je pense qu'il faudrait installer ça en France, c'est-à-dire que à partir du moment où on a une cause qui est une cause de danger ou récurrente, qu'on demande aux partis de se réunir, de réfléchir, et non pas de faire des débats qui découlent sur aucune action, mais de faire un débat qui soit construit et qui enfin une réaction par rapport au chômage.
Mais alors, une coalition autour d'un pacte républicain qui marcherait pour le chômage, pourquoi ça ne pourrait pas marcher pour d'autres thèmes, la sécurité, la santé, Louis ?
C'est, en fait, dans un parti politique, l'idéologie définit la manière d'y arriver, et surtout ce à quoi on veut arriver. C'est à long terme, peut-être qu'à court terme, pour voter, pour empêcher le FN de prendre des régions, des départements ou des villes, ça peut avoir une certaine utilité, mais c'est pas durable, et c'est une très bonne chose que ça ne soit pas durable, parce que comme ça empêche le bipartisme, parce que le bipartisme c'est si moins il y a de partis politiques, moins ils vont essayer de trouver des idées pour moins il y aura de concurrence, et moins ils vont essayer de trouver des idées finalement pour résoudre les problèmes actuels. Le multipartisme c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique parce qu'il y a une remise en cause sans cesse des réflexions, et il y a pas un c'est pas un vote binaire.
Mmh.
Et aussi, le pacte républicain, évidemment, ça peut pas marcher sur les questions de sécurité. Enfin, quoique, avec le PS et la déchéance de nationalité, peut-être, maintenant, peut-être qu'il y a une, il y a un retournement du clivage politique. Mais ça peut pas marcher sur des questions de sécurité, ça peut pas marcher sur des questions d'écologie. Par exemple, Xavier Bertrand, qui avait répondu aux écologistes d'Europe Écologie et Verts que finalement, l'écologie, c'était pas si important que ça et que ça devait que ça ne devait entrer que ça n'entrait dans son programme que si ça ne causait pas de désavantages économiques.
Oui.
C'est pas viable et c'est même pas vivable de faire ça. C'est donc finalement au court terme, bon.
Donc Louis n'y croit pas.
Pourquoi pas, mais au long terme, c'est... Ouais.
Justement, tu parlais d'écologie, je vais en profiter pour faire une transition et changer de sujet avec la COP21 qui a été un événement majeur et important de la fin de l'année 2015. Quel est votre sentiment sur cette COP21, Théophile?
Moi, je pense que la COP21, c'est une sorte en fait d'escroquerie en fait, je dirais ça comme ça, parce que je trouve ça un peu stupide que les chefs d'État se réunissent une, deux ou trois fois par an pour cette cause qui est quand même plus qu'urgente, je dirais, à l'heure actuelle.
Mmh.
Ou des, par exemple, même en France, au lieu de faire, nous on est écologique envers les pays les moins respectueux ou moins développés, essayer de regarder un peu et regarder les centrales nucléaires assez vieilles, ou s'il y a un risque d'accident qui polluerait bien plus que tous les autres pays.
Donc toi, tu penses que la COP21, c'est beaucoup d'inertie, beaucoup d'échanges, de dialogues, mais pas beaucoup d'actes, et en tout cas des actes qui sont reportés à trop tard.
Bah, c'est, comme on a vu, un acte écrit, mais va-t-il être appliqué en réalité ?
Mmh. Foucault, est-ce que c'est ton sentiment, COP21, un échec ?
Non, moi je pense que c'est magnifique de voir autant de pays réunis dans le même endroit, à Paris, après les tensions qu'il y a eu des attentats, de les voir tous unis, de signer quelque chose, même si c'est pas fait.
Mm-hmm.
C'est pas important, rien de voir cette unité internationale, c'est impressionnant.
Ouais, le fait de voir ces pays qui se réunissent, qui sont d'accord sur la nécessité de faire un effort pour l'environnement, c'est déjà un pas essentiel.
C'est déjà un pas. Après, l'écologie... moi, je pense qu'il faudra du temps avant que la population, les États prennent conscience de l'enjeu. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis, c'est pas que les États, c'est pas que aux États à faire quelque chose. C'est chaque personne fait un geste. Chaque citoyen fait un geste. Mmh. Ça peut être n'importe quoi, mais déjà changer, passer d'une essence à une électrique, vous avez un bonus écologique.
Ouais.
Ça permet, à la planète de se sentir mieux, c'est déjà important, c'est un pas en plus. Si chaque citoyen fait un mouvement dans le monde, fait un truc dans le monde, on passera à quelque chose d'impressionnant.
Avant de prendre en compte les efforts de chaque citoyen du monde, est-ce que dans ton environnement proche, dans ta famille, tes amis, est-ce que tu sens qu'il y a une prise de conscience et une volonté de modifier nos comportements, les comportements de tes proches?
Largement, oui, il y a une prise de conscience. Moi, j'en discutais avec mes parents de la COP21.
Oui.
Ils m'ont dit Kyoto en 97, on n'avait pas pris conscience parce que les gens étaient éloignés de la politique. On voit aujourd'hui la politique, elle est au centre de tous les débats parce qu'on a peur. On a peur, on a envie de politique moderne. Du coup, les gens s'intéressent beaucoup plus aux sujets qui sont débattus. Et on COP21, écologie, les gens dans ma famille, quelqu'un qui a acheté une voiture électrique,
oui.
Les gens se déplacent à vélo. Ma famille, mon père va au travail à vélo. Donc voilà, il y a une prise de conscience.
Et vous vous interdisez de boire une bière, pardon, à la terrasse d'un café extérieur chauffé, par exemple ? Pas encore.
Il y a un confort. Il y a un confort aussi à avoir, je pense.
Donc il y a encore une marge de progression.
Oui, il y a encore une marge de progression, mais aussi on y arrivera au fur et à mesure. Il faut du temps pour tout.
Louis, quel est ton sentiment sur la COP21 ? C'est un échec ou une réussite ?
Je dirais que par rapport à ce qui était par rapport à ce qu'on avait tous prévu, ça c'est une formidable réussite, mais c'est aussi un formidable échec sur certains points. C'est-à-dire que c'est vrai que aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus intéressés à la politique et malgré la crise de représentation, mais c'est aussi la conséquence de médias qui présentent la politique comme un spectacle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Je vois des ministres qui commentent l'actualité, oui. qui sont pas très sobres. C'est une bonne chose. Mais il faut faire aussi attention justement de ne pas tomber dans la politique spectacle, comme ça a été le cas avec la COP21. Je me souviens, c'est Jean-Louis Borloo qui avait expliqué de ça de façon très claire, que la COP21 c'était plus du spectacle que des actes. Mm-hmm. C'est que on a réuni 195 pays, mais comment on peut trouver un consensus à 195 pays? C'est alors que les 10 émetteurs de CO2, des 10 premiers émetteurs de CO2 représentent la quasi-totalité des émissions mondiales. Donc je rejoins plutôt l'avis de Borloo sur et d'autres écologistes sur ce point. C'est que c'est qu'il faut aujourd'hui faire une COP21 à 10, à 20, mais pas plus, parce que sinon
les premiers concernés, ceux qui polluent plus.
Ça sera pas efficace, et je suis sûr que même si finalement c'est réussi, je suis sûr qu'on aurait pu avoir des accords plus engageant et plus efficace à 10 ou à 20.
Mmh. Et pour rester dans ce même thème et faire un peu de diversion, le pape François qui a rédigé dans le courant de l'année 2015 une encyclique sur lequel cette encyclique est centrée sur l'écologie, sur lequel il rappelle que tout le monde doit se sentir concerné par la problématique écologique. Est-ce que c'est pour vous quelque chose d'important, d'essentiel ou alors de tout à fait superficiel et d'accessoire, Foucault?
Faut rappeler aussi ce qui s'est passé à Manille juste avant l'intervention du pape. Il y a eu une catastrophe naturelle juste avant.
Oui.
Il est venu après cette catastrophe naturelle. Après chaque événement douloureux, les gens se remettent en face de Dieu, se disent « Mais pourquoi il y arrivait quelque chose ? Je prie pour ma famille, tout ça. » Le pape arrive aux Philippines. Il y a 6 à 7 millions de personnes, fidèles. Qui vont voir. Vous faites ça en France, vous faites ça en Europe, il n'y aura personne. Il y aura une quantité minuscule. Pourquoi les Philippines, c'est un pays qui est très très religieux. La France, il y a un pourcentage de... Il y a des religions très très réparties. Donc vous aurez quelques populations en France. Si vous faites ça en Europe, comme on le voit au JMJ ou dans tous les pays du monde, il y a une concentration de pays. Donc c'est normal qu'il y ait une grosse population. Mais 6 millions, c'est le nombre qu'il y avait au JMJ à Rio,
oui,
de jeunes. Et là, on l'a dans un seul et même pays. Donc je pense qu'en France... il n'y aura pas 6 à 7 millions de personnes.
Néanmoins, cette encyclique, elle permet au pape de s'exprimer non seulement devant les fidèles qui sont présents devant lui, mais sur les chaînes de télévision, de radio internationale. Il propose de lutter contre la mondialisation de l'indifférence. Il appelle les hommes politiques à devenir honnêtes par rapport à ces problèmes. Est-ce que c'est pour vous important, comme je le disais tout à l'heure, ou ça porte pas forcément beaucoup, Théophile?
Moi, je pense que le pape, pas beaucoup de gens l'écoutent, quoi.
Ouais, ouais.
Moi, dans ma classe ou encore dans mon lycée, j'ai pas vu encore quelqu'un de très, très catholique, engagé, qui écoutait le pape et qui allait à la messe tous les dimanches, par exemple. En tout cas, dans ma génération, c'est ce que je crois voir.
Bien. L'émission va bientôt se terminer. On a encore quelques minutes. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que, en 2015, vous retenez une bonne nouvelle qui se serait déroulée pendant cette année-là? Et pour chacun d'entre vous, ça sera le mot de la fin. Alors, c'est Louis qui commence.
Bah, bien entendu, comme on l'a dit, la COP21. Mais aussi, face à la haine dont je parlais tout à l'heure, un formidable essai pour construire autre chose. On l'a vu avec par exemple Podemos ou les listes citoyennes en France ou en Europe.
Oui, explique en quelques mots Podemos.
Podemos, c'est un parti qui est situé à gauche mais qui propose de faire de la politique autrement en impliquant les citoyens en mêlant modernité et citoyenneté et en appliquant plus les citoyens, donc c'est le concept de démocratie participative, en impliquant plus les citoyens dans les décisions qui sont prises. Et il a tendance justement à casser un peu le jeu politique actuel en Espagne.
Alors, je vais poser la même question. Quelle est la bonne nouvelle en 2015 pour Foucault?
Pour moi, la bonne nouvelle, c'est l'album de Coldplay. Hein.
Très bien.
J'ai pas d'événements politiques d'actualité qui m'ont marqué positivement. Ça a été flouté par les attentats de Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre. La COP21 reste un très bon événement. Les élections régional reste un très bon événement, la prise en compte des 13 nouvelles régions reste un très bon événement. On avance, on va vers une bonne voie. Mais l'album de Coldplay, c'est...
Très bien. Et la bonne nouvelle de Théophile ?
Moi, je sais pas si on peut dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le malheur. C'est que grâce aux attentats, les gens ont pris conscience que ça pouvait arriver à tout le monde. Et que c'est pas parce que ça se passait pas dans notre pays, ces attentats, qu'il fallait les ignorer. Je pense par exemple en Syrie, en Turquie... le peuple kurde, le peuple turc, le peuple syrien, qui tous les jours presque se voient se faire, qui vivent dans la terreur. Et bah, je trouve ça bien que les gens aient un peu pris conscience de ce que c'était.
Donc il faut se rappeler que notre bonheur peut être fragile.
C'est ça.
Merci à tous les trois. C'était le Forum des Jeunes sur Fadjet.